Alors, je voudrais donner quelques explications sur la vie consacrée et ensuite nous poser la question comment peuvent naître les vocations consacrées. Voilà, une fois par an, nous nous posons ces questions-là. Donc, pour désirer des consacrés, il faut comprendre ce qu'est la vie consacrée. Et donc, il est important que dans l'Église, il y ait des hommes, des femmes qui vivent un célibat pour le royaume, pour signifier à nous tous, y compris donc les gens mariés, que l'idéal, en fait, c'est l'union à Dieu totale. Je reprends ce que dit le pape François dans sa lettre, je vais le citer de temps en temps. Il a donc écrit une lettre sur la famille. Et il dit ceci, « La virginité est une invitation aux époux à vivre leur amour dans la perspective de l'amour définitif du Christ. » Donc le but, c'est la perspective. Je suis marié, mais pourquoi ? Pour être uni à Jésus. Voilà. Sinon, on fait de l'autre une idole et on passe à côté du sacrement de mariage. Le but du mariage, ce n'est pas le mariage. Le but du mariage, c'est Dieu. Voilà. Et du coup, les consacrés, ils rappellent ça, voyez, autour de nous, ils disent, attention, le but, c'est le ciel. Moi, je vis déjà, dit le consacré, dans l'état du ciel. C'est pour ça que je n'ai pas de sacrement. Ils n'ont pas de sacrement, les consacrés. Ils sont déjà dans l'état du ciel. Au ciel, il n'y aura plus de sacrement. Il n'y aura plus la Bible, il n'y aura plus tout ça. Et puis, ils nous rappellent cette radicalité, cette liberté. Quelqu'un qui fait un vœu de pauvreté, chasteté, obéissance, il est dans une grande liberté. On sait bien comment les biens nous donnent des soucis. Moins vous en avez, moins vous avez de soucis. Ah oui. Donc ça, c'est vraiment confortable pour ça. Et puis, il nous rappelle aussi que même les époux, et le Concile le disait déjà, doivent vivre une certaine chasteté, une certaine pauvreté, une certaine obéissance. Bon. Donc, il y a quelque chose de radical qui est signifié dans la vie consacrée et qui nous a rappelé à nous aussi. Le prêtre, c'est un petit peu différent. Il va signifier le Christ bon berger. Ce qui veut dire que Dieu, pour conduire l'humanité, veut passer par des hommes. Du coup, ça me pose la question à moi, qui ne suis pas prêtre, par exemple, enfin à vous, et puis à moi aussi, est-ce que j'accepte d'être conduit par, en fait, par des prêtres, par l'Église apostolique fondée sur les apôtres? Est-ce que j'accepte d'être conduit par l'Église ou pas? Bon. Voilà pour la vie consacrée, le sacerdoce. Voilà. L'un va plutôt signifier, en particulier la vocation consacrée féminine, les épousailles. Nous avons besoin d'être épousés, de recevoir Dieu comme notre unique époux. Et le sacerdoce va signifier plutôt le bon berger. Nous avons besoin d'être conduits par des bergers. Nous avons tous besoin de bergers, même moi. La deuxième question, c'est où vont naître les vocations? Alors, je reprends les propos d'un évêque, Mgr Yves Le Sault, en 2010, qui avait écrit quelque chose qui est sorti sur Zénith. Et donc, comme je garde bien tout, je me suis repenché dessus. Il disait, en fait, les vocations consacrées, elles vont naître en particulier dans les familles et les communautés qui vivent radicalement, profondément, leur baptême. Il disait, il n'y a pas tellement une crise des vocations, il y a une crise de la vocation baptismale. Normalement, une communauté, si elle est à fond avec le Seigneur, si elle a un vrai désir de sainteté, si elle est radicale dans son choix, elle va engendrer d'elle-même des vocations. C'est pour ça qu'il dit, la crise, elle est au niveau de la vie baptismale. Il est évident que quand un jeune voit autour de lui une communauté qui va utiliser au sens bon du terme les prêtres, qui va admirer la vie consacrée, eh bien ils vont avoir envie d'être consacrés, envie d'être prêtres. Mais si le prêtre est celui qui, on ne comprend pas très bien son appel, voire on va le critiquer, voire je ne sais pas quoi, il ne va pas avoir envie d'être consacré, d'être prêtre. On n'a pas tellement envie d'entrer dans une église en disant « L'église cool, je vais la sauver, et puis quand je serai prêtre, j'aurai 10 clochers, et je ferai le tour des clochers avec ma voiture. » Ce n'est pas très enthousiasmant. Ce qui fait que je vais avoir envie d'être prêtre, c'est que je sens que je vais être accueilli, reçu, demandé. Vous voyez ? Donc c'est là où Mgr Yves Lesseau disait, la question c'est, est-ce que nous vivons profondément notre baptême en le comprenant et en désirant utilisant le sacerdoce et la vie consacrée ? Voyez, une famille qui régulièrement va recevoir, je fais le truc un peu idéal, hein, en famille, le sacrement du pardon. Mon père, est-ce que demain on peut venir pour recevoir le sacrement du pardon ? On sera 3-4, vous avez 30 minutes ? Oui. Des gens qui font appel au prêtre pour recevoir les sacrements. Des fois, je vais à l'hôpital, la personne, le sacrement des malades, mais elle est déjà dans le coma. C'est un peu tard. Mais est-ce qu'on a une habitude à se servir de l'Église ? Bon. Est-ce qu'on va visiter un dimanche après-midi telle ou telle communauté religieuse ? Est-ce qu'on invite des... Pareil, bon. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire vivre à fond notre baptême ? Et je vous donne 4 clés. Il pourrait y en avoir 6, 3, 2, bon. Vivre notre baptême... C'est d'abord, la première chose, c'est cultiver la joie. Benoît XVI insistait beaucoup là-dessus. Hein. Il disait « Ma vie a été traversée par cette conviction, c'est le christianisme qui donne la joie. » Donc il faut que être ami de Jésus, ça soit une joie. Si les enfants voient des parents qui... arrive toujours en retard à la messe, parce que, alors ça peut être les enfants qui mettent en retard les parents peut-être, hein. Mais il faut qu'on sente que aimer Jésus, ça donne la joie. On ne vient pas une heure par semaine pour s'ennuyer à l'église. Parce que vous imaginez, le jeune, il va se dire, quand je serai prêtre, ben, je vais perpétuer la possibilité à des chrétiens de s'ennuyer une heure par semaine. Non, il faut que l'enfant sente que Jésus donne la joie. Si l'enfant ne sent pas que Jésus donne la joie, eh bien, il n'y a aucune raison que je m'engage dans ma vie totalement avec Jésus. Donc la joie, est-ce que notre vie chrétienne, elle est joyeuse ? Voilà. Bon. La deuxième chose, est-ce que nous sommes avec Jésus comme avec quelqu'un ? Est-ce que Jésus, c'est quelqu'un ? Le pape François dit « Il est fondamental que les enfants voient d'une manière concrète que pour leurs parents, la prière est réellement importante. » Il faut que les enfants voient. Les enfants, les discours, ça ne marche pas. Hein. C'est des contemplatifs. Donc, il faut qu'ils voient, il faut qu'ils sentent. Hein. On nous dit dans l'Évangile « Les brebis, elles entendent, elles écoutent ma voix et elles me suivent. » Elles écoutent ma voix, pas mes paroles, ma voix. La manière dont je vais parler, la voix, dit quelque chose du cœur. On voit bien quand quelqu'un nous parle en nous aimant ou sans nous aimer, c'est les mêmes paroles, mais ce n'est pas la même voix. Donc il y a quelque chose au niveau du cœur et qui fait que l'enfant va comprendre que Jésus, le Père, l'Esprit-Saint, Dieu... C'est très important, c'est quelqu'un de très grand, c'est quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un à qui je peux donner toute ma vie. La troisième chose, est-ce que ma relation à Dieu me permet de me construire plus que de construire ? C'est-à-dire, est-ce que je veux être saint ? Est-ce que je veux me construire ? Alors, voyez... Jésus dit « Mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. » Le but dans notre vie, ce n'est pas de faire des choses pour Dieu, mais c'est de suivre Dieu. Et on peut passer notre vie en étant généreux, même pour l'Église. On fait des activités. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit des parents qui se dépensent ils sont pas souvent là, ils se dépensent dans des associations, des trucs, mais ils sentent pas des amis de Jésus. Ils sentent pas que l'activité, elle va construire papa et maman. Et il faut que... Et alors, je le dis pour les parents, mais pour, comme dit Yves Le Sceau, hein, il dit c'est une crise de la communauté, du baptême. Il faut que les jeunes, ils sentent que dans notre communauté, en fait, ce qu'on fait, on le fait pour se construire, nous. Vous voyez, la petite Thérèse, elle n'a rien fait de sa vie. Elle a balayé des couloirs et elle a aimé des religieuses. Il y en avait une qui n'arrêtait pas de l'agacer. Bon, c'était pas super enthousiasmant à l'intérieur du Carmel, apparemment dans ce qu'on lit. Mais la petite Thérèse, on en entend parler encore aujourd'hui. Vous avez des gens qui ont construit des grands trucs, des grands bâtiments, qui ont fait des tas d'associations, des grandes choses, des grands projets. Aujourd'hui, on n'en parle plus. La différence, c'est quoi? C'est qu'il y en a une qui a compris que chaque chose qu'elle faisait servait à construire son cœur, à convertir son cœur, à transformer sa personne. Puis il y en avait d'autres, ils font des choses, mais ils n'ont pas compris que si ça ne transformait pas leur cœur, ça ne sert à rien de le faire. Je le vois quand je propose, j'ai proposé une fois le parcours Saint-Marc à quelqu'un. Et la personne m'a dit, mais vous savez, je fais déjà beaucoup de choses. Mais attendez, je ne vous propose pas quelque chose pour faire des choses. Je vous propose quelque chose pour vous faire, vous. Pour arrêter de faire, pour vous construire, vous. Et c'est ça l'enjeu. Vous voyez ? Et quand les enfants voient, en fait, papa et maman qui sont transformés au fur et à mesure de leur vie, des événements, etc., eh bien, à ce moment-là, ça y est, je comprends que Dieu est présent. Vous voyez, la résurrection, qu'est-ce qu'elle provoque chez les apôtres? C'est impressionnant, hein, dans la première lecture. On leur envoie des pierres, on les rejette, et on nous dit, les disciples étaient pleins de joie dans l'Esprit Saint. On leur envoie des cailloux, ils sont pleins de joie. Ça, c'est la résurrection. La résurrection, c'est le Christ présent dans mon cœur, alors qu'on me balance des cailloux. Amen. Bon, dernière chose. Le baptisé, c'est celui qui a le souci des personnes. Le baptisé, il est prêtre, prophète et roi. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que j'ai un souci des personnes. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle. Parce qu'il sent que les gens ont besoin d'entendre une parole. Il est prêtre, il est prophète... Il est prêtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait le lien entre les personnes et Dieu lui-même. Et il est roi, ça veut dire qu'il a un souci du gouvernement. Donc il faut que les enfants voient des parents ou une communauté qui a le souci des autres. Voilà ce que dit le pape François. Les enfants qui grandissent dans des familles missionnaires deviennent souvent missionnaires. Si je vois toute ma vie des parents qui ont un souci des autres et pas un souci de la maison de campagne ou je ne sais pas quoi, des volets, mais qui ont un souci des autres, ben forcément, quand je serai adulte, je vais me dire comment avoir un métier, comment avoir une vie tournée vers les autres. C'est pas très compliqué. Par imitation, je vais dire ma vie, pour qu'elle soit réussie, il faut que je la donne. Voilà, donc c'est simple, pour engendrer des vocations, c'est tout à fait simple. Vous voyez, c'est par contagion, par un regard, il n'y a pas besoin de beaucoup parler, pas besoin de faire beaucoup de choses, mais il faut être habité. Voilà, si nous habitons notre baptême, eh bien nous allons naturellement engendrer des vocations. Donc demandons, voilà, les quatre points, ça fait beaucoup aujourd'hui, pour vivre notre baptême. Demandons la joie. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas la joie? Est-ce que Jésus est vraiment quelqu'un et pas une idée, une valeur? Est-ce que j'ai compris que je devais d'abord me construire moi? Et ensuite, est-ce que j'ai le souci des personnes? Amen.